voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Étienne Robial. Ce soir, la télévision, c'est de la lumière dans du noir.
Bonsoir Étienne Robial.
Bonsoir.
Nous nous sommes transportés de votre maison à votre studio, là où vous créez tous vos graphismes dont nous allons parler. Hier, vous nous avez raconté comment, en reprenant une librairie spécialisée dans le 15e arrondissement de Paris, vous êtes devenu éditeur de bande dessinée d'auteur, éditeur de livres d'images aussi. C'est la grande aventure Futuropolis qui vous a bien occupé entre 1972 et 1994. Et comme vous nous le disiez hier en fin d'émission, parmi les habitués de cette librairie, il y avait un journaliste qui était passionné de culture américaine. Et puis un jour, de 1982, il vous fait une drôle de proposition.
Oui, Futuropolis, c'était un endroit public où il y avait énormément de monde et même des auteurs de bandes dessinées qu'on ne savait même pas mettre un nom sur leur dessin ou sur leur visage. Et il y avait un journaliste qui présentait d'ailleurs des journaux à ce qui s'appelait à l'époque Antenne 2, qui s'appelait Pierre Lescure, et qui était copain aussi avec Jean-Pierre Dionnet, Métal Hurlant, avec qui j'ai fait toute la maquette de Métal Hurlant quelques années plus tôt.
C'est Jean-Pierre Dionnet, d'ailleurs, au début de la librairie, qui vous tuyautait un peu sur les
comics
américains.
Oui, surtout les comics américains de la côte Est, tout ce qui est super-héros et tout ça. Tous les Macaluta, Kubert, Jack Kirby et compagnie. Et ce même Dionnet, qui était à l'époque avec Philippe Manœuvre, était aussi sollicité pour cette émission qui allait s'appeler Les Enfants du Rock. Donc ça, c'était une chose un peu inattendue. J'étais même étonné de la demande, puisque je suis ni rocker, ni client de télévision. J'avais une expérience aussi avec la librairie, avec un, pour moi, qui était un monument, qui était Chris Marker. Et Chris Marker m'a fait faire un générique qui s'appelait « Le fond de l'air est rouge ».
C'est vous qui avez fait le générique du fond de l'air rouge.
Voilà, alors ça remonte à
1977.
77, exact. Et voilà, donc ça, c'était un truc formidable. Donc on parlait pas que bande dessinée dans cette librairie. Et c'est ma première vraie expérience. Chris Marker l'a jeté. C'est quand même un gros monument. Mais c'est vraiment la seule expérience que j'avais faite à ce présent. Tout simplement, j'ai dit oui, formidable. Puis je vais tout simplement développer ce que je sais faire, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle une architecture d'écran, faire un tracé régulateur, faire des gabarits, décomposer l'écran qui à l'époque était 4 sur 3, 4 tiers, le rectangle de Pythagore, la diagonale 5.
Enfin, pas tout à fait rectangle, parce que les bords étaient un peu arrondis.
Un peu arrondis à l'époque, mais enfin, on va voir, entre l'image native, celle qui sort de la régie et celle qui est reçue chez ce qu'on appelait le client, qui était le téléspectateur, il y a beaucoup de rogne, il y a beaucoup de rogne. Donc, j'ai construit comme je dessinais mes pages de livres ou mes pages de magazines, de presse. Et puis, comme dans un livre ou un magazine, il y a une couverture, il y a une deux de couverture, il y a un sommaire, il y a une quatre de couverture, il y a une où on dit bonjour, l'autre on dit au revoir, et à l'intérieur c'est structuré par des chapitres, avec des chiffres ou avec des noms, et j'ai tout simplement décliné la chose sur cette émission. Et ça, c'était une première. Ça se faisait dans le 7e, c'était rue Cognac G. Et je suis venu avec des bromures, des images noires et blancs, c'était des lettres pochoirs, les enfants du rock, et qu'on collait sur un panneau. Alors je me souviens, on avait mis ça sur le panneau qui était sur le plateau central face à la caméra, et qui étaient les cartes météo de, il s'appelait Gillo Pétré, il faisait la météo, il nous avait même engueulé parce qu'il préparait sa météo la veille du soir pour le lendemain midi, la météo devait peut-être pas bouger beaucoup, et on y avait bougé ses nuages et ses soleils, et ça me servait à coller, c'était aimanté, ça me servait à coller mes bromures, mes lettres, et puis voilà.
Il y a une réflexion sur les couleurs aussi, ce qui est très frappant quand on revoit ce premier générique des Enfants du Rock, on a quand même l'impression que ça sort directement de chez Futuropolis,
il y a du jaune,
il y a du noir, il y a du gris. Jaune.
Alors, c'est pas seulement ça, c'est que j'avais fait une petite enquête toute simple, toujours avec mes cercles chromatiques, et je m'étais aperçu que le support télévisuel ne comportait pas de jaune, ou très très peu de jaune. 81, 82, 81 Mitterrand, un des groupes est nommé par Mitterrand pour s'occuper de la l'ex-ORTF devenue Antenne 2. À cette époque-là, on a Folon qui bat des ailes et qui nous souhaite une bonne nuit à 11h20. Avec la gentille speakerine, on les voit plus maintenant, qui nous disait « Oups, il est 11h30, il faut aller se coucher, demain il y a le boulot, l'école, etc. Demain la journée va commencer comme ceci, comme cela. » Faut rappeler que la télévision ne fonctionnait que le midi, le soir, un petit peu l'après-midi pour les journées des enfants. Et puis, il y avait un truc qui s'appelait FR3, régional, avec des stations régionales, qui, elles, prenaient l'antenne vers 17h pour les potins chiens écrasés de chaque quartier de notre chère France. Et c'est vrai que replacer ça aujourd'hui, c'est assez bizarre. Donc, les Enfants du Rock, c'est déjà toute la bande de rigolards où il y a Chabat, Decaune,
Alain de Greff.
Et surtout Alain de Greff qui est un grand visionnaire et qui a cette qualité de faire confiance. Il fait confiance. C'est même parfois troublant parce que si on l'interroge ou si on le questionne, sur des choses très fondamentales, il vous retourne que c'est votre job et que c'est pas son problème, mais que c'est à toi de résoudre le problème et c'est pas le sien. Lui, ce qu'il demande, c'est que la cohérence entre tous les bons hommes qu'il a placés fonctionne. Donc il y a Chabat, il y a Philippe Dana, enfin il y a toute cette bande qu'on va retrouver très vite, plus tard, avec l'expérience Canal+.
Alors Canal+, c'est à peine 2 ans après, c'est 1984.
Voilà, très vite, le projet est lancé. Alors c'est même pas 84, c'est 83, autour d'Alain Rousselet, qui est chez Havas à Neuilly. Et il y a cette grande idée de faire une chaîne autour du sport et du cinéma. C'est pas une innovation. HBO aux États-Unis a exactement la même formule. Et surtout, on va y avoir des abonnements et on s'adresse à un public d'abonnés, hein, de gens qui cherchent. Donc c'est l'aventure Canal+ qui commence. Et là, pour la première fois, il faut tout faire sur une chaîne. Hein. Avant ça, il y avait des équipes en place, des équipes même syndiquées. Tout était bien structuré. Et un petit peu comme la perturbation que j'ai amenée dans le monde de la bande dessinée avec ces histoires de notions d'auteur et autres, là, on chamboule un petit peu tout.
Mais qui a eu l'idée au départ qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper de penser globalement l'image
visuellement? C'est moi qui propose à Pierre, à l'un de Greff, et à Rousselet aussi, qui est aussi très attentif, qui est un peu quand même ami des arts et tout ça, qui regarde ça d'un œil curieux, bah de tout penser de A à Z, en commençant par la tonalité de fond, c'est-à-dire le noir. La télévision, c'est de la lumière, et c'est de la lumière dans du noir. Alors, c'est un noir spécial, parce que le noir de la télévision, c'est l'écran éteint, donc c'est du verdâtre, etc., qui ne devient noir que parce qu'il y a un point lumineux à l'intérieur. Alors là, je suis en plein dans mes fondamentaux, donc c'est une jouissance permanente. Et donc, on établit des règles, des chartes, des gabarits, qu'on va ordonner, qu'on va organiser, et surtout il faut tout penser, tout créer. Ça coûte quand même de l'argent. À l'époque, toutes les régies commencent à se perfectionner, et c'était la grande mode des pages qui se tournent du bas droite au gauche, en faisant des il y avait des petites sortes de logiciels qui s'appelaient Mirage, où on écrivait un mot, puis ça partait en étincelle, etc., etc. À l'époque, bah, le générique du film du dimanche soir de la première, c'était Hollywood. Bon, on avait peut-être une merde du cinéma français après, mais ça fait rien, c'était Hollywood. Et ça durait des heures. D'où l'idée de tout simplement écrire les choses, une démarche assez port salut, tout simplement parce qu'il y avait des centaines et des centaines de choses à créer, et si on voulait informer, dire que c'était du cinéma, il suffit d'écrire C-I-N-E-M-A, c'était cinéma. Alors après on disait cinéma d'auteur, cinéma américain, cinéma français, et ainsi de suite.
Et ce cinéma, sport. Ce cinéma, vous n'allez pas l'écrire n'importe comment.
Alors évidemment. toujours avec mes alphabets. Alors on va retrouver des alphabets que j'utilisais à Futuropolis ou ailleurs ou dans d'autres maisons d'édition. Et c'est mon parc d'alphabets qui sont des alphabets de lettres dessinées. Alors tout ça pour des histoires évidentes de droit, c'est-à-dire que s'il fallait acheter des licences ou des autorisations d'utilisation d'alphabet pour des génériques, c'est-à-dire pour des choses qui sont diffusées en permanence, ça coûte une blinde, c'était pas concevable. Donc la meilleure idée, c'était de créer soi-même ses propres alphabets, comme on fera après avec le Futura de Paul Reiner de 1927, qu'on a redessiné. Alors ça, c'était pour résoudre des problèmes d'inclinaison. Faut dire que dans la télévision, les textes que l'on a dans le bas de l'écran, c'est fait par des machines, ça s'appelle des synthétiseurs d'écriture, donc ce qu'on appelle les synthés, et que les synthés, ils sont limités à des couloirs, et qu'il fallait impérativement que les informations données soient dans ces fameux couloirs.
On a un exemple ici, pardon de vous interrompre, mais de ces alphabets récupérés. Et redessiner ici et là. Par exemple, vous prenez un pot de confiture, un pot de confiture de 1928, de marque Lenzburg, voilà. Et cet alphabet, il va suivre toute votre histoire. On le retrouve dans la collection Ik et Nunc chez Futuropolis, on le trouve ici dans une affiche d'une exposition qui avait eu lieu à Angoulême, Robialopolis, Angoulême, c'est écrit, il me semble, avec cette voilà. Typographie-là, et on le retrouvera sur Canal+, par exemple.
Dans le magazine, et toutes les productions gay, puisqu'à Canal+, il y avait un club de gays, et il y avait des émissions gays, et qui aimaient bien cet alphabet, donc on a utilisé l'alphabet Lenzburg pour faire tous ces génériques.
Mais quand je disais qu'il n'était pas écrit n'importe comment, il y a le choix d'un alphabet, mais il y a aussi la façon de le disposer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la machine qui produit des textes, c'est toujours fait à la main, puisque vous allez décaler légèrement les lettres, vous allez en agrandir certaines, en réduire d'autres, de façon imperceptible pour le téléspectateur, mais ça fait vivre tout d'un coup ce qu'on voit à l'écran.
Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours l'histoire des formes et des contre-formes, et de mettre deux lettres l'une à côté de l'autre, c'est la même chose que de mettre deux couleurs. Il se passe quelque chose, et ce petit quelque chose, c'est cette contreforme qu'il y a entre un G et un A. Et cette contreforme n'est pas la même que le G et le V, ou le G et le T, et ainsi de suite. Et de créer ainsi des mots qui soient dessinés et qui soient surtout identifiables.
Alors, une bête question d'emploi du temps. Vous nous aviez raconté lundi comment vous arriviez à suivre vos études aux Beaux-Arts pendant la journée et à travailler pendant la nuit. Pendant 10 ans, vous vous êtes occupé à la fois de la direction artistique de Canal+ et de celle de Futuropolis. Comment est-ce que vous faisiez ?
Puis vous oubliez tous les petits...
Je ne parle pas de tout ce que vous faites à côté, on en reparlera plus tard.
J'adore bêtement ce que je fais. Je suis un boulimique de travail. Et dès que je me réveille, j'ai hâte de toucher mes crayons, mes gommes, mes ciseaux et de faire bouger tout ça ou de positionner tout ça. Ou même si je ne suis pas actif... C'est encore une fois peut-être un défaut, mais je vais analyser ce que j'ai sous le regard ou ce que mon champ visuel m'offre de remettre en question, de critiquer. Alors bien sûr, il y a toujours un côté remettre en question ou poser des problèmes ou je le vois avec des dossiers beaucoup plus... grand ou plus important aujourd'hui, à savoir d'abord formuler la question avant de donner la réponse. Parce qu'en fait, les réponses sont très faciles. Ça, on verra ça demain avec les techniques d'enseignement. En gros, faire des belles choses, entre guillemets, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de les vendre. Quand je dis vendre, c'est pas uniquement mettre de la thune sur la table, c'est de convaincre son interlocuteur que c'est la chose qu'il lui faut. Hein, au même titre qu'un médecin va vous prescrire 2 suppos avant d'aller au lit, et vous êtes convaincu que ça va aller mieux le lendemain matin, et en aucun cas, le médecin vous fera des propositions de traitement.
Mais à Canal+, vous aviez beaucoup de gens à convaincre, ou en tout cas, beaucoup de gens à qui imposer vos idées, puisque ça va bien au-delà de l'image de ce qu'on voit à l'antenne, ce qui se passe à Canal+, avec vous. Tout est dans une charte graphique, et c'est aussi bien l'indication des toilettes, la signalétique du parking au siège social, l'affichage syndical, tout est normé, la façon d'écrire une lettre, tout est organisé. Vous étiez un peu le grand gendarme de Canal+ aussi.
M'appelait l'ayatollah, quand même. J'ai des souvenirs parce que comme je faisais quand même partie des, entre guillemets, des chefs, on avait des réunions de direction et autres. Et la pire des insultes qu'on pouvait me faire, c'était de me traiter d'artiste. Hein, il y avait des réunions où le directeur financier disait Étienne, si t'as des trucs à faire cet après-midi, vas-y, parce qu'on va parler de choses sérieuses. Je prenais ça très très mal et je dis parce que ce que je fais c'est des conneries ou c'est pas sérieux et ainsi de suite. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin le mal était fait. Et en fait c'est ça le rôle que je jouais ou que j'essayais de jouer. C'était justement de rendre l'image ou la perception visuelle de cette chaîne Canal. Suffisamment forte pour qu'elle soit, encore une fois, immédiatement identifiable, et en tenant compte de tous les impératifs, bien sûr, économiques, qui sont de toute façon comme partout, plutôt que de mettre des choses en boîte et tout ça. J'ai aussi commis des choses parfois inavouables. Avec Mathias, on s'est fait Champs-Élysées pour Drucker, ou Star 90, ou des choses un peu bizarres. Pour la petite histoire, le budget de ce générique qui s'appelait Champs-Élysées a coûté le prix de tous les génériques et toutes ces chartes graphiques pour Canal+. Qu'on faisait à Londres et de nuit dans les studios à Noel Street de Channel 4, où j'ai un autre grand maître qui est Lambinerne, qui est mon homologue de Channel 4 et BBC, qui font un travail formidable d'étalonnage. Enfin, ça, c'est aussi un de mes dadas. L'étalonnage de tous les documentaires de la BBC. On voit une image d'un documentaire BBC, vous savez que c'est de la BBC. À Canal+, on étalonne au noir, hein, c'est-à-dire c'est un noir particulier. On retrouve ma palette de noir de
Futuropolis.
De Futuropolis. Là, c'est un noir et toujours pareil, vous pouvez y diffuser n'importe quel film ou qui est n'importe quel film de Besson, j'allais mettre un adjectif qui n'était pas courtois. Alors ça, ils ne les savent pas. Mais sur les autres chaînes, ils étalonnent pas, donc ça sort plutôt rouge ou plutôt bleu. La qualité du noir, d'un noir sur un film de Besson est immédiatement identifiable quand elle est diffusée sur Canal+. Pour la petite histoire aussi, Canal+, enfin ça a un petit peu changé, puis récemment encore plus, l'identifiant antenne était en haut à gauche, contrairement à toutes les chaînes, alors ça c'était pour pas faire comme tout le monde, et on a émis Canal+, en haut à gauche, alors que tout le monde mettait en haut à droite, et à l'époque, Canal+, c'était la première semaine, le premier mois, et on était rue Olivier de Serre, et on envoyait le signal, toujours notre natif, 5 sur 4 pour être diffusé 4 sur 3, sur la Tour Eiffel, qu'envoyé au Lila, qu'envoyé à Bourges, à Clermont-Ferrand, et ainsi de suite jusqu'à Montpellier. Sauf que toutes les pylônes de renvoi bouffaient un petit peu de signal, un peu de... C'était pas encore des pixels à l'époque, mais ça bouffait un petit peu. Et j'ai un pote qui était au Beaux-Arts de Montpellier qui me dit oh, « Putain, t'as fait fort, etc. Anal+, ça c'est fort. » Et il y avait un film de cul tous les samedis. Où... Et il m'a dit « Là, c'est quand même fort. » Donc la catastrophe, j'appelle la régie finale en demandant de virer le bug immédiatement. Et du coup, Canal+, c'était la seule chaîne où il n'y avait rien. Et puis on n'a pas eu le temps de le refaire parce que c'est des trucs un peu complexes techniquement. À mettre au point, et puis la direction technique aussi très, très rigoureuse. Donc du coup, il n'y avait jamais marqué Canal+, qui était aussi une forme identitaire de dire « il n'y a rien de marqué, donc c'est Canal+. » Mais vous avez vu, ce n'était pas fait exprès.
On parlait de noir et de l'importance du noir. Il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris l'importance du noir dans le logo Canal+, c'est Vincent Bolloré, quand il est arrivé. On raconte qu'il le trouvait un peu sinistre, un peu triste,
oui, voilà, donc
votre
il
logo.
A, oui, il, a, ben, il avait sollicité Marc Lescope, qui est toujours Canal, qui était mon adjoint à la direction artistique. Et il a dit à Bolloré, on ne peut pas toucher, il faut demander au créateur. Alors, ça ne mène pas d'argent ni rien du tout, mais une sorte de droit moral. Donc, il peut virer le logo si ça ne l'intéresse pas, mais il peut pas mettre un nez rouge ou des oreilles de Mickey, sauf au Xème degré. Donc, il a proposé de mettre, avec ce qu'on vivait actuellement, avec tous ces attentats, et en plus avec cette croix, de mettre le noir rouge et le jaune et le blanc jaune, et que rouge et jaune c'était plus chaud que noir et blanc, etc. Donc j'ai évidemment dit que c'était pas concevable, même pas imaginable. Bon, enfin, il m'a fait dire qu'il avait essayé et qu'on l'avait prévenu que j'étais pas forcément très coopératif. Voilà. Mais le logo qu'on connaît aujourd'hui dans son cartouche noir et blanc, blanc sur noir, ce dessin n'apparaît qu'en 92, hein, au JO de Barcelone, où j'ai des problèmes de reproduction dans les magazines. À l'époque, la photogravure était composée de 4 typons, magenta, cyan, jaune, etc. Et souvent, les journaux, dans les programmes et les magazines, inversaient les films. Donc, Et surtout, sur les stades, j'avais à côté des énormes Europe 1 bleu et blanc, des gros RTL rouge et blanc, et ma hauteur d'ellipse, hein, là, au début c'est une ellipse qui évoquait les diffusions 24 heures sur 24.
Ça ressemblait à votre fameux cercle de couleurs aussi.
Toujours, et puis qui se figeait de temps en temps en fonction de l'heure de la diffusion de tel ou tel film. Sur une couleur donnée, donc l'information était que c'était vert, donc c'était le matin, jaune l'après-midi, et ainsi de suite. Et donc, on a fait ce logo avec des grosses lettres blanches sur le truc noir, et qui s'est appelé pendant 4-5 ans le logo « bord de stade », entre guillemets, pour pouvoir simplement faire face ou simplement percevoir le logo quand on filmait les garçons en short en train de courir après le ballon. Et le tournage aussi sur les terrains de foot, c'est une expérience formidable où je collaborais sans y collaborer, mais où il y avait des réunions de réflexion, et on était obligé de rester au sol. Parce que dans un premier temps, nous n'avions que les droits des matchs de deuxième ou troisième diffusion, qui n'étaient pas équipés, qui n'avaient pas de pylône. Donc il fallait louer des échafaudages, monter des échafaudages pour aller foutre sa caméra en plein milieu. Puis la caméra fait gauche-droite, gauche-droite. Et c'était un véritable problème et de coûts, de camions. Et peut-être on pourrait imaginer différemment. Donc on a commencé avec des caméras de surveillance à mettre des caméras piquées dans des... Parce qu'il n'y avait pas non plus les budgets pour mettre un bonhomme derrière chaque truc, derrière chaque filet de foot. Et ce qui a créé cette façon un peu particulière, propre à Canal, de filmer un match de foot. À tel point que les grosses chaînes, eux, au début, qui avaient des moyens quand même supérieurs, ne montaient plus sur leurs pylônes, ils descendaient aussi dans les couloirs. Où on allait dans les vestiaires. Et les premiers tournages dans les vestiaires, là, avec la buée, l'homme transpirant et autres, les cailloux, les objectifs des caméras, elles s'embuaient immédiatement. C'était une catastrophe. Donc, le cadreur, en télévision, c'est des cadreurs, hein. Sur le cinéma, c'est des caméramans, mais le cadreur qui est responsable du cadre, de la mise en page, de son, ce qui est aussi des choses importantes que j'ai aussi structurées, avec un Kleenex, c'était le bordel, quoi. Et puis, il y a un technicien qui dit, ah, j'ai une technique qui marche bien, faut mettre des bas sur la lunette de l'objectif. Et donc, il y avait une collaboratrice qui a enlevé ses bas et on a mis un bout de bas devant le truc. Et effectivement, la buée ne passait plus et on a pu aller dans les... Et Canal+, au début, ça a été que ces expériences-là qui étaient formidables.
Merci, Étienne Robial. Canal+, on aurait pu y passer toute la semaine. Demain, on reste dans votre laboratoire graphique, hein, on-off, où nous sommes. On évoquera quelques-unes de vos autres créations. Et puis, encore un autre de vos métiers, comme s'il vous en manquait, celui de professeur à l'ESSAG, l'École supérieure de la graphique, enfin, qu'on appelle Penningen.
Penningen, hein, dont j'ai refait le logo.
Évidemment.
Évidemment.
À demain.
À demain, bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Étienne Robial. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.